Les Nuits de France Culture. Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Si le père de la nouvelle génération de cinéastes portugais était Manuel de Oliveira, qui était Paulo Rocha pour cette même génération? Paulo Rocha, qui, à la fin des années 80, venait de terminer Les Montagnes de la Lune. La volonté, le désespoir, la mélancolie, la solitude. Film ambitieux. À la question toujours posée, c'est quoi le Portugal? Le cinéaste répondait, via le Japon et l'Inde. Microfilm, par Serge Danet, première diffusion sur France Culture le 10 janvier 1988.
Microfilm. Microfilm, bonsoir. En face de moi, un cinéaste portugais, Paulo Rocha. Un film qui va sortir Les Montagnes de la Lune. Un film très ambitieux. Un film complexe, non pas compliqué, qui est péjoratif, mais complexe. Et un cinéaste important. Alors c'est assez compliqué parce que, on a dû le dire plusieurs fois dans cette émission, il y a un petit pays en Europe, qui est peut-être le dernier pays, à mon avis, en Europe, à faire un cinéma national, pas à partir d'une industrie nationale, mais avec simplement une dizaine de cinéastes très personnels, très têtus, très souterrains, très portugais, et pas au sens d'une identité claironnée ou au sens d'une image de marque, au sens simplement que le Portugal n'est pas n'importe quel pays. Et que ça fait problème pour les Portugais, et qu'ils en parlent régulièrement, les uns et les autres, avec des films qui n'ont jamais des succès mirobolants, mais qui restent parce qu'il y a comme une sorte de temporalité différente, comme si le Portugal vivait à la fois dans un passé très ancien, mais recroisait assez régulièrement le présent le plus présent, et que ces films, en général, on ne sait pas très bien quoi en dire, on est toujours assez impressionné, on se sent toujours extrêmement ignorant de l'histoire du Portugal, d'abord, qui est tout à fait particulière. Et les films nous apprennent autant de choses sur ce qu'on ne sait pas qu'ils nous rassurent sur ce qu'on sait du cinéma. Donc, le plus célèbre de ces cinéastes, c'est Manuel Oliveira. Il y en a d'autres. Il y a Antonio Reis. Il y a João Botelho. Il y a quelqu'un qui n'est pas encore connu en France, qui s'appelle Álvaro de Moraes, c'est ça? Au Bobo. Dont le film a eu un grand prix à Locarno. Et puis, il y a très, très unique dans cette pléiade-là, Paulo Rocha. Alors pourquoi unique? Parce que dans les années 60, au moment où il y a eu tout ce qu'on a appelé les nouvelles vagues, pas seulement en France mais dans toute l'Europe, il y a eu aussi au Portugal quelques films et quelques cinéastes qui ont reflété ce que c'était que les années 60 pour tous les jeunes, entre 20 et 30 ans je suppose à l'époque, en Europe et pas seulement en France. Donc il y a eu deux films, un qui s'appelle Changer de vie, l'autre qui s'appelle Les Vertes années, qui ont été remarqués à l'époque et qui sont d'ailleurs sortis dans les salles d'arrêt-essai françaises de l'époque. Et puis après, disons, une énigme, une ellipse très très longue, Paulo Rocha est tombé amoureux du Japon. Je crois qu'on peut dire tombé amoureux, ça a été quelque chose de très très violent. Moi c'est au Japon que je l'ai rencontré. Et il a mijoté très très lentement un film qui a été vu donc il y a quelques années dans les festivals, puis sorti à Paris, qui s'appelait L'île des amours. Un film, je crois qu'il a mis à peu près 14 ans à faire, à maturer, à penser, à mener à bien. Et puis ce film, donc là il n'a pas mis 14 ans heureusement, Les Montagnes de la Lune. Donc Paulo Rocha est à la fois un éternel jeune cinéaste, déjà un cinéaste confirmé, un peu l'oncle de la nouvelle génération, le père, disons, resterait Oliveira, parce que là, on est quand même dans des structures extrêmement, je dirais pas féodales, mais le Portugal, justement, implique également ces histoires de filiation, parce que c'est le sujet du film, faut pas dire n'importe quoi. Et cette situation, est-ce que ça te convient, cette situation, d'être à la fois un pied dans le passé, dans le présent, et d'être là, en ayant été souvent absent, et en étant tout le temps, finalement, dans le décor?
Ça me convient, quoique ce ne soit pas facile. D'un côté, je me sens très bien qu'Oliveira, qui a presque 80 ans, reste le plus jeune des cinéastes. C'est très bien. On ne sait jamais ce qui va nous sortir. Il nous met toujours en risque de faire des œuvres tellement révolutionnaires, ce qui est, je crois, à peu près presque unique dans l'histoire du cinéma mondial, d'avoir un cinéaste qui a dépassé les 70 ans et qui prend encore des grands risques esthétiques. En général, c'est un peu l'âge de la retraite. Les grands cinéastes continuent sur la foulée de leurs grandes œuvres précédentes. Ils n'essayent pas de faire de grands nouveaux films entièrement différents. D'un autre côté, quand j'ai commencé dans le début des années 60, l'industrie du cinéma portugais n'existait plus. Et donc j'ai un peu une fonction de père avec Fernando Lopes, de tout un renouveau des méthodes, de l'esthétique. Et finalement, ça a eu beaucoup d'effets pratiques sur les lois, sur le cadre institutionnel, même sur la création d'une école de cinéma. Et donc, quand ça marche mal, je me sens un peu de responsabilité, même avec les films des tout jeunes. Et ça marche mal un peu fatalement, parce que nous n'avons que 10 millions d'habitants au Portugal, le marché interne est petit. Et c'est une grande culture et très ancienne, la portugaise, mais en même temps elle est fragile, étant donné qu'on n'a pas des frontières tellement vastes qui nous protègent des chocs économiques et politiques et démographiques de l'extérieur comme d'autres pays de la taille de la France, par exemple. Et donc, le problème du Portugal nous devient toujours un énigme, mais en même temps quelque chose de très précieux. Il y a très peu de pays au monde qui, si petit, est produit un peu par miracle, toujours dans des conditions désespérées, des choses aussi bien. Et donc, on se dit, s'il n'y avait pas eu, à ce moment-là, il y a 3 siècles, il y a 5 siècles, des actes de volonté désespérés, non seulement le pays n'existerait pas, il faut penser que, par exemple, l'Espagne a absorbé toutes les autres nationalités de la péninsule. Donc, on pourrait avoir subi le sort des Catalans, par exemple, des Basques, d'autres nationalités qu'il y avait à l'intérieur de l'Espagne. Alors, à tous les niveaux, l'histoire du théâtre portugais, chaque secteur de l'histoire du Portugal a toujours un air un peu miraculeux. C'est la crise permanente, mais chaque 30 ans, chaque 50 ans, on fait des choses importantes et parfois même très très importantes. Donc c'est quelque chose qui ne vient pas du ciel, sont des actes de volonté et de risque toujours au bord de l'abîme. C'est pas facile.
Moi, je retiens deux mots, c'est volonté désespérée. Parce qu'effectivement, dans ton film, donc Les Montagnes de la Lune, mais dans d'autres films portugais aussi, on a ce double aspect. D'un côté, il y a une sorte de volontarisme même, c'est-à-dire de faire le film coûte que coûte, d'une façon artisanale, en ne cédant très, très, très peu de choses, en faisant pas de concessions, en sachant que le marché est petit pour que la chose existe et reste. Et puis, il y a le désespoir. Bon. C'est un cliché, mais il n'est pas complètement faux. Une sorte de nostalgie, une sorte de tristesse, ou plutôt de mélancolie, ce serait plutôt le mot juste, qui fait que chaque cinéaste, quand il fait un film ambitieux en Portugal, et c'est le cas, il y a beaucoup de films ambitieux, se sent presque obligé de dire c'est quoi le Portugal, finalement. Et que toutes les histoires qu'il raconte, elles sont des commentaires à c'est quoi le Portugal. Alors, dans ton cas précis, on va approcher un petit peu le film. Comme tu as passé beaucoup de temps au Japon, tu parles japonais, tu connais plutôt bien, tu as abordé la question de c'est quoi le Portugal et quel genre d'histoire, quel genre de personnage, de quoi j'hérite moi aussi. Tu l'as abordé par un biais culturel, qui est d'ailleurs lui aussi assez racine historique, qui est le Japon donc, et qui est le plus grand roman de la littérature japonaise, donc qui est le dit Genji, qui est un roman de cour, très ancien, et à travers cette structure donc du dit Genji, tu racontes le Portugal disons, des dernières années, c'est-à-dire entre la liquidation des restes du salazarisme, les premiers gouvernements démocratiques, les alliances politiques, et puis également une dimension de filiation. Tous les personnages ont des...
Ils ne savent pas qui est leur père.
Ne savent jamais qui est leur père. C'est un film où systématiquement, je pense, on dit que...
C'est construit sur ça.
C'est construit là-dessus. Et puis également les passions, c'est-à-dire l'érotique des passions. En quoi ça te facilitait la tâche de prendre cette sorte de modèle, de patron japonais, pour revenir vers le Portugal, exactement comme le contraire de ces missionnaires portugais qui sont allés au Japon, ça fait très longtemps. Bon, on dirait qu'il y a une sorte de...
D'aller-retour. Dans mon cas, il y a des affinités profondes de peau, de sensibilité sur pas mal de choses de la tradition japonaise. Disons que pour moi, l'éros est japonais. Je suis beaucoup plus branché en lisant ou en voyant des estampes ou en voyant le spectacle de la rue là-bas. Mais en même temps, j'ai été toujours, je suis quelqu'un de très très concret. C'est à partir des visages, des maisons, des arbres, des pierres portugaises que j'ai envie de raconter les histoires de ces gens, de cette ville. C'est très concret. Mais souvent, des images qui ordonnent ça ont besoin d'un petit coup de pouce formel qui est souvent un modèle japonais. Je n'arrive pas à m'expliquer ça depuis que j'étais très très jeune, depuis 12 ans, 13 ans, quand j'ai vu les premiers films japonais, je me suis dit, j'ai des cousins là-bas. Avec le temps, ça s'est développé dans une sorte de monde privé, secret, personnel. Je pense que l'histoire des Portugais dans l'Asie, depuis 5 siècles, de toutes leurs aventures personnelles, privées ou alors politiques, économiques ou culturelles, c'est un domaine immense qu'on a commencé à ouvrir. Je pense éventuellement dans l'avenir faire d'autres films qui se passeraient là-bas. Et donc, ça fait partie de l'aventure portugaise dans le monde plus intéressante. Tout le monde chez nous a des grands-pères, a dans le sang des choses comme ça.
C'est drôle d'ailleurs parce que le rapport Portugal-Japon, c'est un vrai miroir. Parce que les Portugais ont construit un empire énorme qui a vite disparu mais qui a été énorme. C'est parmi les premiers à être allé au Japon. Et le Japon, c'est le contraire. C'est un archipel très montagneux dont les gens ne sortaient pas. Et le seul empire japonais qu'on ait connu, c'est celui du XXe siècle. C'est l'empire militariste. On dirait que les deux pays sont complémentaires quelque part. Il y a une sorte de face-à-face réel entre le portugais et le japonais qui fait que d'ailleurs dans les deux cultures, il y a la vraie question qui là n'est pas rhétorique ou qui n'est pas nationaliste au sens étroit du terme, c'est qui sommes-nous, nous les Portugais, ou qui sommes-nous, nous les Japonais. On dirait que toi, tu accumules les deux mystères finalement pour trouver un peu de clarté.
En réalité, non seulement les Portugais étaient les premiers qui soient arrivés au Japon, les premiers Européens, et les premiers Japonais qui sont venus en Europe sont venus au XVIe siècle aussi par l'intermédiaire des Portugais. Mais, par exemple, quelques-unes des choses les plus exotériques de la culture japonaise, comme par exemple la cérémonie du thé, elles n'ont jamais été aussi bien décrites que dans le portugais du XVIe siècle, par des étrangers. Ça veut dire la langue, disons, cultivée portugaise de l'époque, les mots clés étaient très bien adaptés à parler de la nature, des rapports humains, etc., et sans faire d'effort spécial sur la langue. Et c'est quelque chose un peu miraculeux. Et les Portugais et les Japonais sont assez portés vers la mélancolie. Il y a certains côtés, peut-être c'est superficiel, mais il y a un côté maritime. Le Portugal est presque une île. Il est en Europe, mais on se sent tellement mis à dos par l'Espagne qu'on a un fort sentiment d'insularité. On est
en, il n'y a pas le choix, oui.
On est une sorte de Finistère. Et là, l'Europe finit, on est enfin perdu dans l'océan. Il y a peu de monde. Il y a une sorte de solitude. De ce côté, il y a des affinités qui marchent assez bien. Ça veut dire, des Japonais se sentent très bien au Portugal et souvent des Portugais se sentent bien au Japon. Mmh. À part ça, ce que je ne m'explique pas, c'est cette folie migratoire et aventurière que les Portugais auront depuis six siècles. Et qui est vraiment le contraire du Japon. Mais c'est comme ça.
Oui, d'ailleurs, si on peut même ajouter qu'il y a beaucoup de Japonais au Brésil, colonie portugaise, et que c'est même la seule colonie de peuplement japonaise qui est dans le monde. Donc ça continue encore au Brésil. Donc il faut se rapprocher un petit peu du film. L'histoire est quand même assez complexe, mais disons qu'elle tourne autour d'un personnage, qui est vraiment le héros du film, qui s'appelle Joao dans le film. Et ben, j'aimerais que tu le décrives toi-même. Disons que moi, mon idée, c'est que tu as essayé de faire une sorte de théorie de qu'est-ce que c'est que Don Juan au Portugal. Quelque chose qui a à voir avec la séduction, avec le donjuanisme, mais pas dans sa version donc espagnole, mais dans une version un peu différente qui serait la version portugaise. Mais il faut que tu décrives un peu ce personnage et qui il est.
C'est un président d'un petit parti charnière qui, disons, aura peut-être 10% des votes, mais qui est important parce que dans les jeux des coalitions, de côté duquel il sera, il fait la majorité. Et c'est un homme très séduisant, très charismatique, très indéfinissable, mais il y a une sorte d'élément, de désir. Et il arrive à fasciner tout le monde. Et il a du courage, et il est intelligent, enfin, mais c'est assez indéfinissable. C'est connu que les femmes l'aiment beaucoup, mais même ses ennemis, les hommes, résistent mal à son savoir-faire et à son charme. En réalité, il est un peu copié de plusieurs des gens que je connais bien au Portugal. Et quoi qu'évidemment, pour la théorie, la matrice du roman japonais m'a aidé. Parce que le prince Genji, qui est un grand ministre d'État, il y a 1000 ans dans la cour l'empereur à Kyoto, c'est une sorte d'archétype de ses qualités. Et il a de gros problèmes parce que il est secrètement le fils de l'empereur. Et il fait un fils à la impératrice actuelle. Et donc, personne ne peut jamais dire ouvertement qui est le père, qui est le fils des personnages principaux du roman d'origine japonais. Alors, pour le Portugal, ça m'a aidé énormément. Parce que les Portugais aiment, disons, des situations fluides, complexes. Donc, c'est pas du tout cette bravoure à l'espagnol. Ce côté des passions très nettes, mais très définies d'une façon très géométrique. Et les Portugais ont une forte imagination pour les rapports humains, mais sur les nuances, et ça a souvent un côté un peu mystérieux. Et donc, dans ce pays qui, pour nous, exerce une aussi grande fascination, notre histoire, il y a beaucoup de plus grands personnages de l'histoire du Portugal. Ils sont morts. On ne retrouve plus leur corps. Quel est le véritable tombeau?
C'est ça.
Donc le roi Sébastien qui est mort au Maroc, on ne retrouve à 16 ans en bataille. C'est un roi portugais dont on n'a jamais retrouvé le corps. En conséquence, pendant des siècles, on disait qu'il allait revenir. Dans le nord du Brésil, on dit encore que le roi Sébastien viendra pour aider les pauvres, redresser les torts, etc. Même aujourd'hui, les paysans du nord du Brésil. Bon, et le plus grand poète portugais, Camões, a aussi un grand tombeau dans le principal monastère de Lisbonne, mais le tombeau est vide. Et alors, quelques-uns des tombeaux des personnages centraux de la l'histoire portugaise sont vides.
Et dans ton film, donc, il apprend un moment dans le film qu'on a retrouvé les cendres d'un ancêtre qui sont à Goa, en Inde, et il envoie donc les deux jeunes gens dont on va parler pour assister à la cérémonie, mais il dit elles sont fausses de toute façon.
Oui. Alors, mais mon idée, c'est que ça n'a... c'est ce que je voulais dire, le petit bout de sagesse qu'il pourrait y avoir dans le film, c'est que João, donc le séducteur principal, à partir d'une très dure expérience privée, personnelle, il sait que c'est pas tellement important, ça. Il faut avoir la confiance de faire comme. Ça veut dire tous les rapports humains, toute la vie n'est possible que si, tout en aimant nos parents, on puisse accepter que notre filiation est fausse et qu'il mérite d'être aimé ou détesté de la même façon. Donc, en partie, c'était une sorte d'exorcisme en disant « ces relations sont très importantes ». Mais en même temps, si elles sont fausses, ça veut dire si elles n'existent pas, et ça n'empêche pas que les gens existent réellement et que le pays est là. Même si nos idées sur le Portugal sont fausses, le Portugal, lui, il existe. Etc. Tous les rapports humains ne devraient, dans le cadre du film, ils provoquent des tas de tragédies amoureuses, amicales, familiales, etc. Ça ne devrait pas empêcher que, même si on va prouver que réellement ils n'ont pas de lien de famille, ça ne devrait changer rien à leur rapport. Donc c'est une sorte de... tout ce qui est fait dans le monde, c'est un acte de foi, c'est un chèque signé sans couverture.
Donc là, ce que tu définis, c'est finalement la perversion. C'est-à-dire on fait comme si et ça marche aussi bien. Mais
oui,
on fait comme si.
C'est...
C'est peut-être la différence, justement, avec le Don Juan espagnol. Mais on peut prendre aussi le film différemment, donc d'un point de vue là beaucoup plus historique, beaucoup plus documentaire. Il y a trois générations dans le film. Il y a donc un vieil homme qui va mourir, qui meurt d'ailleurs pendant tout le film, qui agonise interminablement, qui est un ancien dignitaire salazariste, mais qui est très malin et qui voit, donc qui est le parrain du héros, et qui voit l'évolution...
Et peut-être le père.
Et peut-être le père. Et puis... Donc il y a lui qui a, je sais pas, 50 ans, dans la force de l'âge. Et puis il y a donc deux personnages beaucoup plus jeunes. Il y a la fille...
Antonia,
qui est la fille donc du parrain.
Oui.
Qui est devenue plus ou moins une terroriste, ou plutôt qui vit avec un terroriste à Rome.
Oui.
Et que donc le héros va aller chercher à Rome et va ramener à la maison. Et puis il y a son propre fils à lui, mais là aussi fils, on ne sait pas si c'est vraiment son fils, mais qu'un autre homme pourrait être... Le père de ce garçon, qui est joué par Bonafé, donc un acteur qu'on connaît. Et ces deux-là vont être évidemment totalement sous la coupe. La fille se révolte, mais finalement, il y a une histoire entre elle et Joan. Mais ils vont quand même se rencontrer les deux, en Inde, justement. Et ils vont avoir une véritable histoire d'amour, enfin, quelque chose d'assez fort entre eux, qui va exclure Joan. Mais on apprend à la fin du film qu'ils ont disparu. Alors, est-ce que c'est un suicide romantique à deux? On ne sait pas. Mais on a quand même le sentiment que les grands-parents ont bien vécu, les parents boivent et les enfants trinquent. Les petits-enfants trinquent. Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose sur le Portugal depuis 50 ans, disons?
Alors, pour le personnage du grand-père, il est entièrement non conventionnel pour le Portugal, parce que dans la mesure où il présente un gros vieillard... Un homme qui a 80 ans et qui a une grosse vitalité. Et il est peut-être de droite ou d'extrême droite. Il a tous les défauts méchants et sympathiques que d'habitude on n'attribuait pas à l'ancien régime. Ça veut dire l'ancien régime a été beaucoup plus compliqué. Et donc j'en fais un monarchiste qui était tout le temps en lutte avec Salazar, mais en même temps, assez de droite. Donc il détestait le Joan qui, lui, était beaucoup plus à gauche dans sa jeunesse. Bon, les jeunes gens, donc, qui ont 25 ans maintenant, ils sont beaucoup plus fragiles et ça a un air du temps très évident. Les fils de mes amis, ils sont un peu comme ça. Ils sont très fragiles, sincères, un peu perdus dans... dans ces changements énormes historiques et sociaux. Ils ont pas mal de mal à se retrouver. La fille a beaucoup de vitalité, le garçon est plus lunaire.
Le garçon pense plutôt au monde de l'art, il fait du piano, il aimerait bien fuir un peu.
Oui. Elle, par contre, essaie de lutter. Dans tous mes films précédents, le personnage principal féminin est toujours une femme en révolte, et dans ce film, ça continue. Mais à la fin, je n'ai pas voulu fermer la signification dernière du film. On ne sait pas. Et c'est un peu annoncé que peut-être ils se sont suicidés, mais peut-être ils ont fait exprès pour laisser semer les pistes. Par exemple, dans le livre du Genji, vers les derniers chapitres, c'est une belle disparue et qui s'est noyée dans le fleuve et qui finalement est cachée. Donc je pourrais faire la suite du film avec la fille qui est recueillie dans un hôpital psychiatrique parce qu'elle s'est lancée dans le fleuve, mais elle n'est pas morte. Mais elle veut que personne ne sache où elle est. Et on pourrait raconter...
Toujours est-il que les deux jeunes ont une histoire d'amour, que la fille Antonia a un enfant qui pourrait très bien être l'enfant de Johan, et que Johan récupère cet enfant donc in extremis, parce que le dernier plan du film, on le voit avec le bébé dans les bras qui s'avance vers la presse. Donc là, il y a aussi trouble sur la paternité et captation d'héritage.
C'est le moment, disons, plus grave de destin pour le personnage principal. Qu'est-ce qu'il doit faire de cet enfant? On ne sait pas si c'est son fils ou non, on dit plutôt que ce n'est pas son fils. Quoique ce ne soit pas du tout impossible.
Que c'est son fils ou son petit-fils.
Oui, c'est le désarroi autour de lui. Et on veut le conseiller qu'il doit même abandonner sa carrière politique parce que c'est... Enfin, s'il accepte d'être devenir Premier ministre, il va finalement faire les plus grosses erreurs de sa vie aussi. Et le film se termine sur un grand point d'interrogation. Qu'est-ce qu'il va décider? Et il a cet enfant dans ses bras. Et il affirme que l'enfant, c'est bien, qu'enfant existe, c'est tout. Il veut s'accrocher encore à l'espoir que leurs parents ne soient pas entièrement disparus. En partie, je trouve que c'est le moment le plus mystérieux de tout le film. Je l'aime bien. Je trouve que c'est peut-être aussi le moment le plus réussi du film. Mais il a derrière lui l'image sur l'entrée de l'immeuble, une énorme Vierge Marie avec l'enfant au bras. Et toute la grande scène de la visite des ministres étrangers au palais de Sintra, il y a une sorte de... Antonia a une grossesse très très évidente qui provoque un peu le scandale. Parce que les gens commencent à jaser sur le père. Et bon, je pense que c'est quelque chose que je n'arrive pas à me faire... une idée, peut-être je ne veux pas savoir la vérité sur ça.
Non, ce serait logique d'ailleurs.
Donc ça me fascine. La fille a un côté en même temps qui meurt de désespoir et d'amour. Elle n'a jamais été aussi charmante et aussi belle que dans ce moment où elle a la grossesse tellement scandaleuse. Mais en même temps, elle semble déjà avec un pied sur l'autre côté de la mort. Alors, c'est une succession d'images qui m'interroge à moi. Et je crois que ça a une, ça a une ligne dans le film et que ça a une grande, c'est assez envoûtant. Et j'ai pas pu m'empêcher de le faire. Mais je ne voudrais pas être analysé et dire, je crois pas qu'on puisse dire simplement des choses en termes psychanalytiques ou, enfin, ça peut être utile, mais jusqu'à... Après, à certains points, ça a des limites.
Oui, bien sûr. Non, mais c'est...
Donc, c'était le film était fait en flashback à partir de cette situation. La grossesse de la fille, le scandale, et lui qui a le courage de prendre l'opprobre et les ricanements déjà sur ses gosses. parce que c'est pas tellement une appropriation de paternité, c'est que les gens se moquent de lui, parce que finalement, c'est un séducteur trompé. Donc, ça venait du roman du Genji, lui qui était l'homme le plus aimé et jalousé de tout l'Empire, l'homme considéré irrésistible. Finalement, vers la fin de sa vie, il y a une fille qui le trompe. Et à ce moment-là, il prend le bébé, il accepte d'être en public, conspué. Je trouve ça assez fascinant. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est l'image un peu mystérieuse qui m'a fait mettre en route toute la machine du film.
Alors on peut parler un peu de cette machine, parce qu'on n'a pas encore parlé de la forme du film. Donc c'est une forme extrêmement élaborée, puisqu'il y a différentes approches, il y a des scènes filmées d'une façon très scénographique, je ne dis pas théâtrale parce que les gens croiraient que c'est péjoratif, mais c'est bien de théâtre social qu'il s'agit, avec de très élégants recadrages qui font basculer la scène. Là, à mon avis, tu t'es vraiment rappelé de l'admiration sans borne que tu as pour Mizoguchi, parce que c'est comme ça qu'il essayait de faire, c'est-à-dire on suit une action et tout d'un coup quelque chose bascule et un mètre à côté, tout se recompose différemment. Il y a des choses beaucoup plus lyriques et beaucoup plus extraverties, enfin tout ce qui se passe en Inde par exemple. Et puis il y a une ironie perpétuelle qui culmine avec cette grande scène de visite du palais où toute l'histoire du Portugal défile, puisqu'il y a une femme qui est guide, qui parle français, qui explique au ministre étranger l'histoire du Portugal à travers le décor, et João, qui est en pleine forme à ce moment-là, n'arrête pas de l'interrompre, de raconter la vraie histoire triviale. Donc à chaque fois, il y a une sorte de façade officielle, et quelque part derrière ce que tu disais, c'est-à-dire ça ne marche que parce qu'on décide que ça marche. Mais en fait, on sait très bien que rien n'est comme ça.
Bon, alors, avec L'Île des Amours, j'avais une réputation de faire de grosses machines culturelles très élevées, très respectables. Et finalement, comme ça avait été une expérience extrêmement dure, c'était 14 ans où je pensais que j'arriverais jamais à finir le film. Après que je me suis en sorti, évidemment, j'ai une distance ironique beaucoup plus exacerbée en relation au monde. Actuellement, j'en ai tellement bavé que rien ne m'inquiète. La seule réaction que j'ai, c'est un rire. Plus mal ça va, plus j'ai envie de rire. Bon, donc j'ai voulu d'une façon très systématique, à tous les niveaux, soit des sentiments privés, soit de l'histoire du Portugal, y mettre aussi le sublime et la dérision. Et je pense que si le sublime est suffisamment solide, plus on se moque en même temps des sentiments ou des objets historiques, s'ils sont solides, plus ils deviennent encore plus sublimes. Et on voit que ça a une fragilité énorme, que bon. Mais en même temps, j'ai joué très fort sur ce côté grotesque et sublime en même temps. Si les gens ne rient pas d'une façon régulière dans le film, je suis désespéré. Et j'ai peur que, étant donné la réputation que j'ai de faire des films graves et ambitieux, comme on dit, que les gens ne se sentent pas à l'aise pour rire, très franchement. Parce que ça dépasse l'espoir et le désespoir.
Oui, c'est-à-dire que ce qui peut éventuellement faire rire dans ce film, moi, ça m'a souvent fait rire, c'est pas le comique, c'est... l'absolue logique des situations qui fait qu'à un moment, elles sont tellement logiques, tellement complexes, tellement tirées au cordeau, tellement géométriques, qu'on ne peut qu'en rire, parce que c'est trop de sens, c'est le rire qui vient d'un trop de sens, un petit peu comme du non-sens, comme un théorème parfait, mais qui est tellement parfait qu'il en devient drôle, qu'il en devient dérisoire. Et ça, c'est un type... d'ironie que d'ailleurs on trouve aussi dans les films de Manuel d'Oliveira, qu'on trouve, qui est peut-être portugais aussi d'ailleurs.
Donc ces plans séquences qui sont très géométriques,
Et donc, on oppose des couples. Ça provoque. Si c'est écrit comme la musique, comme ça, sur 3 minutes, ça provoque des contrastes très éclaircissants. Et en même temps, c'est une sorte de folie formelle, mais qui est très productive, parce qu'on peut, seconde à seconde, faire des variations et l'opposer.
Bien sûr.
Si on a 3 ou 4 couples qui ont tous des problèmes de jalousie, qui sont en train de faire de grandes décisions importantes dans leur vie, l'ensemble, ça devient foisonnant des sens qui s'opposent, et donc... on peut aussi en rire.
Une dernière question. Tu m'as dit tout à l'heure que tu avais déjà quasiment fait un autre film, donc ça veut dire qu'il y a une accélération vertigineuse dans ta carrière. Est-ce que tu peux en dire 2 mots?
Bon, Manuel d'Oliver avait passé 40 ou 50, les premières 40 ans de sa carrière, il n'avait pas pu, presque pas tourner. Donc, il a commencé sérieusement à 60 ans, à travailler régulièrement, et il va faire 80, et donc il n'arrête pas. Et pendant longtemps, au Portugal, c'était un peu ça. C'était extrêmement dur de trouver d'argent, des moyens techniques, etc. Depuis quelques années, on a un peu plus de possibilités de travailler. Et enfin, c'est encore bien plus dur que dans la plupart des autres pays, mais comparé avec le passé, c'est un progrès considérable. Alors, évidemment, j'avais dans la tête une vingtaine ou trentaine de scénarios que j'avais écrits. Et donc, j'ai dans mes tiroirs énormément d'idées. Ça d'un côté, et de l'autre, on m'a fait une proposition très bonne sur un sujet qui me tenait à cœur. Et donc, il y avait un timing qu'il fallait respecter, sinon. Donc, je n'ai pas aussi bien préparé que d'habitude, mais c'est sur la vie d'un grand peintre portugais du début du siècle, qui est mort à 30 ans, et un moderniste, un des premiers peintres expressionnistes ou abstraits, etc., de l'Europe. Donc, il est mort en 1918. Et il a laissé des prémices, des choses, une œuvre très importante qui a un peu toutes les semences, toutes les directions que l'art allait prendre au cours du siècle.
Bon. Parfait. Eh bien, il y a donc 2 choses à faire. 1, dire à l'auditeur qu'il ne faudra pas rater les montagnes de la Lune. Et 2, te souhaiter de tourner encore très longtemps et de devenir un sublime vieillard portugais énigmatique. Merci Paulo Rocha. C'était Microfilm.
Serge Danet recevait Paulo Rocha dans Microfilm, émission réalisée par Pierrette Perronneau, diffusée pour la première fois sur France Culture le 10 janvier 1988. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant 1 an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.